C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute avec Louis Lacroix.
Bon, évidemment, on parle beaucoup énormément de cette tempête de verglas dans tous les quotidiens. Dans la presse ce matin, il y a un article intéressant. Annie parlait tout à l'heure des arbres, des centaines de branches qui sont tombées un peu partout sur le réseau. Ce qu'on nous dit dans le journal La Presse ce matin, c'est qu'il y a une grande proportion de ces branches-là qui ont cédé sous le poids de la glace au cours de la journée de mercredi jusqu'à hier, qui étaient des repousses de la tempête de verglas de 1998, quand les branches se sont cassées en 98, il y avait des milliers d'arbres qui avaient cédé sous le poids du verglas. Eh bien, il y a eu des bourgeons qui se sont greffés, si on veut, à ces plaies sur les arbres et qui ont fait des branches. Or, ces branches-là ne sont pas aussi solides que la branche qui pousse normalement sur un arbre. Et ce serait justement ces espèces-là de repousses qui, en majorité, qui ont cédé au cours de la tempête de verglas de cette semaine. Et les arbres tout rabougris, dit-on, au lendemain de la crise du verglas, ont dans la plupart des cas survécu à la tempête historique il y a 25 ans. Mais les repousses, elles, n'étaient pas aussi solides. Il y a même un homme qui dit, Pierre-Émile Rocré, qui est ingénieur et pathologiste forestier, qui dit qu'on aurait peut-être dû abattre les arbres à cette époque-là, mais que ça coûtait tellement cher qu'on l'a pas fait. Et bon, en bout de ligne, ils ont joué un rôle pendant des années, dit-il, c'est-à-dire d'embellir la ville, là, parce que c'est beau des arbres, mais quand survient, bien sûr, un épisode comme celui de cette semaine, ben, ça a pas tenu le coup. À part ça, toujours dans la presse, on compare justement la tempête de cette année avec celle d'il y a 25 ans. La tempête de 1998 versus celle de 2023. Et là, vous allez comprendre que oui, c'est dramatique ce qui se passe, puis ça a beaucoup d'impact, etc. Mais ça n'a rien à voir avec la tempête de verglas de 1998, qui avait duré 5 jours. C'était du 5 au 9 janvier que la pluie verglaçante s'était abattue sur plusieurs secteurs, notamment en Montérégie. Celle de 2023 a duré 13 heures. Alors, c'est loin d'être la même chose. Les quantités de pluie de verglas qui sont tombées sont très différentes aussi. En 98, il était tombé le plus haut taux de verglas, c'était à Actonville, 109 mm de verglas qui était tombé. À Montréal, c'était 98,5 mm à Montréal. Comme dans notre station, c'est fou, hein? Tout est dans tout, comme on dit. Alors que là, cette année, ben, c'est 30 à 35 mm dans la région de Montréal. Donc, c'est beaucoup moins. C'est à peu près le tiers de ce qui était tombé en 98. Et bien sûr, les pannes, ben, sont quand même différentes. Là, on parlait d'1,4 million en 98. Là, on parle de 1,1 million cette année. Mais évidemment, c'est pas la même ampleur de panne, parce qu'en 98, il y avait évidemment des lignes de transport qui étaient tombées, et ça avait coûté très cher, et ça avait fait en sorte que les pannes avaient duré jusqu'à 35 jours dans certains secteurs, alors que là, on parle peut-être là, de quelques jours cette année. Alors, ça n'a rien à voir avec 98, mais quand même, c'est une situation qui est importante et qui risque de se répéter avec les changements climatiques, d'où l'importance peut-être de sécuriser le réseau encore davantage. Ça avait été l'une des critiques de la vérificatrice générale en décembre dernier, en disant que pendant des années, on a négligé de renforcer le réseau, justement là, le réseau domestique notamment, là, ce qui amène l'électricité vers les maisons. On en reparlera avec Pierre Fitzgibbon, le ministre responsable d'Hydro-Québec, un peu plus tard dans cette émission. Et bien sûr, il y a eu d'autres impacts importants de cette tempête-là qu'on soupçonne un peu moins, mais pour les gens, par exemple, qui ont des commerces, les traiteurs, tout ça, ça a des impacts parce qu'eux autres, bien sûr, doivent conserver de la nourriture. Et dans le cas d'un traiteur de Gatineau qui s'appelle le traiteur Mazola, il y a une dame qui s'appelle Dana Mazola qui est propriétaire de ce restaurant ou de ce service de traiteur, qui souligne bien sûr l'impact que ça a sur son commerce. Elle dit, c'est 2500 repas qui n'ont pas pu être livrés hier, notamment en raison des écoles qui ont dû fermer. En tout, dit-elle, On pense avoir perdu pour 200 000 $ en panne parce que les frigos ne fonctionnent pas, les congélateurs, etc. Ils ont perdu énormément de nourriture. Et il y a un autre homme, celui-là de la rive sud de Montréal, qui s'appelle Robert Walkers, qui est propriétaire de Crème glacée Walkers. Et vous comprenez que crème glacée, ça marche pas mal avec congélateur. Hein? Alors, si les congélateurs ne fonctionnent pas, bien sûr, ben là, on pourrait perdre la crème glacée. Et là, évidemment, ils se relaient là, pour alimenter les génératrices et donc faire en sorte de pas perdre la nourriture. C'est deux cas, puis il y en a des dizaines. Là, je sais que, mais il y en a des dizaines et des dizaines de ces cas bien sûr, vont être impactés par cette tempête de verglas. Ailleurs dans l'actualité, tiens, ça c'est intéressant. Benoît Charrette, le ministre de l'Environnement, hier présentait sa nouvelle politique de l'eau, puis il veut faire passer les redevances sur l'eau de 3 millions qu'elles sont aujourd'hui à quelques 30 millions à court terme. C'est une bonne nouvelle. Mais il y a aussi un autre impact, et ça c'est intéressant. Le gouvernement Legault a déposé dans son projet de loi, on veut interdire la vente de bouteilles d'eau à usage unique, les fameuses bouteilles de plastique. Avec soi-disant de l'eau de source dedans, là. Quand c'est de l'eau de source, M. Charrette dit il y a une plus-value, ça, on touchera pas à ça. Mais la plupart de ces bouteilles d'eau-là contiennent de l'eau du robinet, là, la même eau que vous buvez chez vous quand vous ouvrez votre robinet, puis vous payez le transport puis la bouteille en plastique quand vous allez l'acheter au dépanneur. Alors, il y a des centaines de millions de bouteilles qui sont vendues à chaque année, qui se retrouvent ensuite dans l'environnement. D'abord, il y aura une consigne qui sera établie, mais je savais pas ça, moi. Savez-vous combien il y a de petites bouteilles d'eau en plastique qui sont vendues à chaque année? Au Québec, là, on parle de 2 milliards. Et ça fait du plastique dans l'environnement, pas à peu près. Alors, à partir des prochains mois, avec la consigne élargie, ce sont toutes les bouteilles d'eau qui seront consignées, mais on veut aussi réduire à la source le nombre de bouteilles mises en marché, selon ce qu'a dit Benoît Charrette, ministre de l'Environnement, hier. Et terminer peut-être avec la bonne histoire, l'histoire, la feel-good story, comme on dit en chinois. Ça se passe en Abitibi, un homme qui a été sauvé. Là, c'est pas une histoire de ChatGPT là comme ça avait été fait la fin de semaine dernière dans le journal La Presse où on a demandé à ChatGPT de nous inventer une nouvelle. Là, c'est vraiment un homme qui a été sauvé par son chien, un homme en Abitibi qui dormait dans sa maison qui a pris feu et son chien, son gros bébé de 85 livres, n'est-ce pas, voyant qu'il ne se réveillait pas parce qu'il y avait des bouchons dans les oreilles parce qu'il voulait mieux dormir et puis que le feu était pris puis qu'il n'entendait pas le système d'alarme. Le chien est allé réveiller son maître et il lui a sauvé la vie parce que il a vu que le feu était tellement important qu'il pouvait pas descendre par l'escalier. Il s'est jeté de la fenêtre du deuxième. Mais avant ça, il a jeté son chien dehors de la fenêtre du deuxième. Le chien n'a pas été blessé, heureusement. Mais lui, s'est cassé les deux chevilles en sautant en bas de la fenêtre. Mais quand même, le chien a fait une belle action. Il a sauvé son maître. C'est l'histoire qui fait du bien aujourd'hui.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcand avec Louis Lacroix.
Maxence Huard-Lefebvre qui est porte-parole chez Hydro-Québec. Bonjour, Monsieur Huard-Lefebvre.
Bonjour, Monsieur Lacroix.
Alors, quel est le bilan, là, ce matin, quand on a commencé, on était à 674 000 abonnés privés de courant. Ça s'améliore graduellement d'heure en heure, là.
Oui, tout à fait. Donc, c'est donc dire que depuis le début de l'événement, en fait, depuis le moment où on a atteint un sommet à 1 125 000 clients touchés, il y a 40% là, des clients qui ont retrouvé l'électricité. Alors, c'est une bonne nouvelle. Hier, on avait dit qu'on devrait être en mesure de réaliser le tiers, de rétablir le courant pour le tiers des clients. Alors, on a pu y arriver. Aujourd'hui, on vise un autre tiers. Malheureusement, là, face à ce qu'on constate sur le terrain, il y aura encore des gens en panne pendant la fin de semaine, mais on souhaite que ce soit le plus petit nombre de gens possible là, qui soient toujours touchés.
Bon, la ville la plus touchée, c'est encore Montréal, j'ai l'impression?
Exactement, c'est encore Montréal. En fait, c'est la grande région de Montréal. C'est vraiment effectivement la ville de Montréal qui est la plus touchée. Là, au sommet, c'était plus de 500 000 clients. Donc, on est maintenant là, entre, j'ai pas le chiffre exact, entre 300 000 et 400 000, si je me trompe pas.
347 000, ce que je vois sur Montréal. Ah,
excellent, vous avez les chiffres. C'est suivi de la Montérégie, de Laval. Alors, tout le... toute la région de Montréal, souvent, ces systèmes météo-là se déplacent sur la couronne nord. Hein. On a vu souvent dans les dernières années les Laurentides être frappés par des pannes, par des vents violents. Alors, la particularité de ce système-là et de cette pluie-là verglaçante, c'est qu'elle a touché l'île de Montréal de plein fouet.
Ouais. Bon, qui vous rétablissez en priorité? J'imagine que là, il y a un problème important à Châteauguay, là, où les usines de pompage sont privées de courant. Est-ce que ça s'améliore dans ce secteur-là? Est-ce que c'est une des priorités que vous avez?
Oui, tout à fait. Ben, je pense que ça a été réglé, là, si je me trompe pas, là, du côté des usines de pompage. Là, c'est dans la priorisation qu'on fait des demandes à traiter. Les usines de pompage, les hôpitaux, ce sont des clients prioritaires. Donc, ce sont des services essentiels à la population. Alors, on va aller rétablir le courant à ces gens-là d'abord. Ensuite, on va travailler sur les pannes qui touchent un plus grand nombre de clients, là, qu'on qualifie de plus payantes. Donc, une panne qui touche 1000 clients va être priorisée par rapport à une panne sur une artère secondaire du réseau qui en toucherait 10. Puis, à travers ça, bien, on reçoit des appels du 911. Donc, les gens appellent le 911 en constatant des situations dangereuses. Ils font bien de le faire par ailleurs. Là, quand on voit un arbre qui touche un fil, des flamèches, on appelle le 911, il n'y a pas à hésiter. Donc, on va aussi, à travers ça, sécuriser des situations comme ça avec l'aide là, de la police des pompiers, par exemple.
Bon, quand vous dites, par exemple, que vous allez prioriser les pannes qui touchent un plus grand nombre de clients, est-ce que sur l'île de Montréal, c'est généralement le cas? Parce que, tu sais, on peut penser, je me souviens de ce qui s'est passé à Noël, il y a des gens qui ont manqué de courant longtemps, mais qui étaient, par exemple, dans des bouts de dans des zones rurales là, où tu as peu de gens raccordés sur un réseau. Ceux-là, ce que vous disiez, c'est qu'ils vont entendre un peu parce que quand on veut régler pour le plus grand nombre possible, est-ce que sur l'île de Montréal, cette question-là se pose? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des bouts de réseau qui vont attendre longtemps avant de récupérer l'électricité?
Ben, c'est certain qu'on est en zone densément peuplée, donc les gens sont moins isolés en bout de réseau. Par contre, le phénomène électrique existe aussi dans la mesure où il y a quand même des artères principales du réseau de distribution. Après ça, il y a des artères secondaires. Puis c'est certain qu'on commence à travailler sur les artères principales. Puis nous, nos systèmes électroniques là, nous indiquent où sont les pannes, mais pour qu'on puisse les voir, il faut que le courant se rende jusqu'à la panne. Ça veut dire qu'une fois qu'on rétablit le courant à cet endroit-là, on va détecter des pannes plus loin sur l'artère. Donc, c'est vraiment la manière de travailler. L'artère principale, puis on va être capable de rebrancher plusieurs centaines de clients sur ces artères-là. On va isoler des sections du réseau qu'on peut garder sous tension par rapport à d'autres où on va intervenir. En fait, c'est celle où on intervient qu'on isole du reste du réseau. Puis on essaie comme ça de limiter le plus possible les gens touchés pendant les travaux. Mais donc, le phénomène, en réponse à votre question, le phénomène où il y a quand même des gens qui peuvent être touchés plus longtemps parce qu'ils sont à la fin d'une section de distribution, là, s'applique quand même, mais je dirais dans une moindre mesure en zone densément peuplée.
Bon, est-ce qu'il va y avoir des gens, comme ça a été le cas en décembre, qui n'auront pas de courant pendant une semaine, genre?
Ben, j'espère que non. Écoutez, pour l'instant, là, ça va beaucoup mieux que pendant le temps des fêtes parce que les dégâts sont moins importants. Pendant le temps des fêtes, il fallait mettre les raquettes puis partir. Dans certains cas, en Gaspésie, par exemple, là, il y a des routes pas déneigées. Là, il y a eu des cas particuliers qui ont été très, très, très longs. On voit moins de dégâts, puis le fait que ce soit le printemps, que la glace fonde, c'est plus facile de travailler. Donc, on devrait, là, ça devrait se résorber avant ça, mais c'est sûr qu'il va y avoir encore des gens en panne en fin de semaine, qu'il va en avoir encore lundi, en début de semaine, des cas particuliers. Et je peux pas me prononcer à ce stade-ci, mais c'est une possibilité.
OK, alors on va vous reparler un peu plus tard. Là, on fera le point vers 7h30 ce matin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se parle plus tard. Merci.
Merci, à tout à l'heure.
Au revoir. Maxence Huard-Lefebvre est le porte-parole d'Hydro-Québec. On va maintenant aller joindre Annie Guillemette, qui est notre journaliste sur le terrain. Elle est à Châteauguay. Bonjour, Annie.
Bonjour, Louis.
Alors, il se passe quoi là, à Châteauguay? Parce que là-bas, c'était vraiment, il y avait beaucoup de maisons menacées d'inondations. Quelle est la situation en ce moment?
Ben, je commence par une bonne nouvelle, Louis. On m'a confirmé en fin de journée hier que l'électricité était revenue pour les stations de pompage à Châteauguay. Il y en a 3. Et donc, on a recommencé à travailler de ce côté-là. Ce qui fait que, là, hier, là, on parlait de 10 000 maisons menacées par des inondations. On savait qu'il y en avait déjà 200 où il y avait déjà de l'eau là, dans les sous-sols, entre autres. On devrait pas ajouter de résidences inondées au cours des prochaines heures parce que justement les stations de pompage ont recommencé leur boulot. Autre assez bonne nouvelle quand même, beaucoup de familles étaient touchées, mais la ville a dû en héberger seulement 3 au cours de la nuit dernière. Mm-hmm. Bien sûr, il y a quand même îlots de chaleur, informations, tout ça disponible pour les recharges aussi de téléphones cellulaires et d'équipements là, au centre culturel Georges Pivanier, en plein cœur de la ville, qui va aussi être à la disposition des gens aujourd'hui. J'arrive à Châteauguay, je vais faire une petite visite, on se reparle plus tard là-dessus, mais au moins les nouvelles semblent assez bonnes là, du côté. Je pense qu'on va s'en tirer avec plus peur que de mal à Châteauguay.
Bon, parle-moi de ce que tu as vu sur le terrain. Tout à l'heure, Monsieur Huard Lefebvre nous parlait des équipes là, qui sont déployées. On parlait de 1100 équipes, je pense, là, sur le terrain.
1100
travailleurs. Tu les as vus, toi, ces gens-là? Ils sont visibles sur le terrain, oui?
Ben oui, j'en ai rencontré un duo ce matin qui était presque au bout de son 16 heures. Hein. On sait que les gens d'Hydro-Québec travaillent 16 heures. Je leur ai demandé si ça allait mieux de travailler de nuit ou de jour. Ils m'ont dit que de jour, ça allait vraiment mieux là, avec la lumière. Mm-hmm. C'est vraiment plus facile pour eux.
Oui, parce qu'il n'y a pas d'électricité.
Ouais, c'est ça, c'est un peu compliqué. Mais vraiment, les deux monteurs de ligne que j'ai rencontrés dans l'Est de Montréal ce matin étaient vraiment de bonne humeur. Ils disaient que les émondeurs leur rendaient mais de fiers services pour permettre là que leur travail aille plus vite. Et quand je leur ai demandé comment était le moral, ben ils m'ont simplement répondu avec un grand sourire que ce n'était pas leur premier rodéo. Donc on les salue, eux et leurs 1000 autres collègues d'Hydro-Québec qui sont à pied d'œuvre là depuis 2 jours.
Et est-ce qu'il y a encore des branches? Moi, hier, je me promenais dans les rues de la ville. Ça semblait assez bien dégagé dans le secteur où j'étais, là. Ce qui est assez étonnant, par contre, c'est que tu roules, t'as 2 feux de circulation qui sont éteints, puis après ça, t'en as 5 qui sont allumés. Après ça, 5 éteints, 2 allumés. C'est assez, tu sais, de coin de rue en coin de rue, ça change, là.
Oui.
Parce que les pannes, évidemment, sont assez éparpillées un peu partout sur le territoire. Alors, est-ce qu'il y a encore des branches dans les rues?
Oh oui, il y a encore des branches dans les rues parce qu'il faut dire que le nombre de pannes est très, très élevé, même si le nombre d'abonnés diminue. Ce matin, plus tôt, là, il y en avait plus de 3000 pannes au Québec. Donc, les pannes rapetissent, il y a moins d'abonnés touchés, mais ça fait quand même plusieurs interruptions. Donc, oui, c'est un peu jazzé quand on circule en ville. Et j'ai constaté la même chose que toi, Louis. Il y a encore beaucoup de branches dans les rues, sauf que depuis hier, il y a eu beaucoup de travail de sécurisation. On les a pas juste ramassés sur le bord du chemin pour laisser passer la circulation. On a mis des cônes, on a mis des rubans orange, jaune de sécurité. Il y a un travail qui a été fait de ce côté-là. Bémol important, il y a beaucoup de grands parcs qui sont fermés à Montréal. En fait, les 5 grands parcs sont fermés. Et je dois décerner, en terminant, un prix citron. On a parlé toute la journée hier de la sécurité. Les barbecues, ça va pas dans le milieu du salon.
Non.
Même chose pour les poêles à camping. Urgence santé, hier, avait fait 2 transports à l'hôpital dans la nuit d'hier.
Mm-hmm.
J'ai appelé ce matin. On en a fait plusieurs dizaines.
Ben
26
donc.
Interventions, 62 personnes évaluées. La grande majorité d'entre elles ont été transportées par mesure préventive. Ouais. Donc, c'est plate manger des sandwichs, mais ça reste quand même l'aspect le plus sécuritaire quand il n'y a pas d'électricité.
Puis, si vous installez une génératrice à l'extérieur, assurez-vous que les vitres soient fermées, les vitres de la maison ou pas trop près d'une entrée d'air, là, parce que souvent les vapeurs l'échappement, là, le retour d'échappement va rentrer dans la maison et là, ça peut causer aussi de l'intoxication. Faut se méfier de ça, bien sûr.
Exactement.
OK, bon, on se reparle plus tard, Annie. Merci d'avoir été
d'être
là. Au revoir. Évidemment, le Québec et en fait la région de Montréal, surtout, là, est toujours touchée par ces pannes d'électricité causées par la crise du verglas. 673 861 clients sont toujours privés de courant ce matin. 350 576 sur l'île de Montréal, c'est bien sûr la région la plus touchée. Devant moi, Pierre Fitzgibbon, ministre responsable d'Hydro-Québec. Bonjour, M. Fitzgibbon.
Bon matin, M. Lafleur.
Gros journée.
Oui.
Depuis 2 jours, ça doit être assez intense. Comment, en fait, ce qui se passe en ce moment, là, c'est qu'on a beaucoup de végétation qui tombe sur les arbres, tout ça. Il y avait eu toute la question de l'entretien du réseau. On en est où avec l'amélioration du réseau pour ne plus qu'on vive de situations comme celle-là au cours des prochaines années?
Ben, premièrement, il faudrait faire le point, il faudrait remercier tous les travailleurs. On est rendu à plus de 660 équipes, 1400 personnes sur le terrain. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Puis je pense que l'Hydro-Québec gère très bien la crise. Hier, on parlait de 30% de gens qui seraient reconnectés. On est rendu à 40%. Donc je pense qu'il faut souligner le travail qui est fait. Maintenant, votre question est très pertinente. On se rappelle que la VG, effectivement, a mentionné un déficit peut-être de maintien d'actifs. Il faut aussi comprendre qu'Hydro-Québec avait d'eux-mêmes augmenté les investissements annuels en maintenance, qui sont passés maintenant à près de 100 millions. Donc, 40% de cette maintenance-là, c'est pour le contrôle de la végétation. Alors, clairement, il y a eu des augmentations d'investissements, mais il faut le reconnaître. Maintenant, est-ce qu'on peut se prémunir contre toutes les intempéries? On parle évidemment d'événements météorologiques extrêmes, ce qu'on a vu.
Non, on comprend qu'est-ce qui s'est passé mercredi, c'est exceptionnel.
Je pense qu'on puisse prévenir d'avoir aucune panne dans une telle situation. Je pense que Mme Brochu l'a bien dit hier, faut accepter ces événements-là qui vont être plus récurrents. Donc, peut-être de nouvelles technologies, mais aujourd'hui, pour la végétation, comment on aurait coupé toutes les branches de 15 cm et plus depuis un an, je pense pas que le monde aurait été content, surtout pas à Montréal. Ouais. Alors, faut faire attention, mais je pense qu'il faut reconnaître qu'il y a eu plus d'investissements de la part de Québec. Ils vont continuer à en mettre plus d'investissements.
Parce que ces phénomènes-là météorologiques particuliers là, ou intenses là, vont pas s'en aller en diminuant. Là. Au contraire, on a l'impression qu'avec les changements climatiques, ça va augmenter. Donc, il faut se prémunir contre ça. Mais comment est-ce qu'on peut s'assurer dans un contexte où on va être de plus en plus dépendant de l'électricité avec l'électrification des transports, avec, bien sûr, la réduction des GES, qu'on va avoir qu'on va avoir de l'électricité fiable et disponible?
Je pense qu'il y a plusieurs phénomènes. Technologiquement, il y a peut-être des nouvelles technologies pour protéger nos fils. On parle de distribution, parce qu'encore une fois, c'est un point important. Quand on regarde le réseau stratégique de distribution des lignes de transmission du Labrador ou de la Baie James, les grands ouvrages, tout est bien à matin.
Ouais, ça n'a pas été touché.
Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, on parle de la distribution. Ouais. Maintenant, on parlait du tutorage un jour aussi. Peut-être qu'il va y avoir des situations où il va y avoir un effacement qui va se faire dans une période extrême météorologique, mais on va avoir du tutorage. On parle beaucoup de ça. L'Ontario va le faire. Nous, on va le faire aussi éventuellement. L'enfouissement, on a parlé hier beaucoup. Je pense, 100 milliards, enfouir le Québec au complet chez Hydro-Québec, ça n'arrivera pas. Ça serait irresponsable.
Non, mais vous avez aussi dit, par contre, que ça se discute. Là, qu'il y a des façons de faire certaines portions du réseau. Là.
Absolument. J'ai posé la question hier spécifiquement aux gens du réseau. Je les envoie là tantôt pour les rencontrer aussi. Ils ont dans leur plan, il y a des nouveaux secteurs qui vont être enfouis parce qu'au niveau économique, ça va être pas mal le même prix que de mettre des poteaux. Alors, je pense qu'il faut accepter que, présentement, je pense que c'est 10 à 15% du réseau enfoui. Il va peut-être avoir une augmentation, mais ce ne sera pas une stratégie d'enfouir le Québec au complet.
Mais on le fait en Angleterre, on le fait en Allemagne. Semble-t-il qu'eux autres, c'est les champions de l'enfouissement des fils. Là. Si eux autres sont capables de le faire, j'imagine nous autres aussi. Là, on n'est pas.
Comme je dis, technologiquement, peut-être qu'il y a des moyens d'enfouir les fils sans dépenser 100 milliards. 100 milliards, c'est un chiffre là, qui est un peu, je sais pas, anecdotique. Là, c'est une estimée très haute, mais avec les nouvelles technologies, peut-être que ça va baisser. Puis si ça baisse, un point où ça devient économique, parce qu'en bout de piste, nous allons payer comme consommateurs. Fait que, je dis toujours aux gens, il y a 90 milliards d'actifs sur le bilan de l'Hydro-Québec. On a mis 100 milliards de plus pour faire de l'enfouissement. À un moment donné, on va doubler les taux d'électricité. C'est pas sûr que le monde le sait.
Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres techniques aussi pour faire passer les fils? T'sais, je donnais un exemple ben niaiseux, ben anecdotique tout à l'heure, là, puis je comprends que c'est pas applicable à Hydro-Québec. Mais chez nous, au chalet, là, un moment donné, on avait un fil qui passait du poteau puis s'en allait au cabanon parce qu'il y a une ampoule dans le cabanon. Ben non. Puis à tout bout de champ, les branches d'arbres tombaient dessus, puis le fil cassait. Mais on a mis un fil d'acier qui part du poteau, qui s'en va au cabanon, ça a réglé le problème, il ne peut plus jamais casser. Ça a coûté 3$, c'est réglé. T'sais?
On travaille, comme vous savez.
Je comprends là, que c'est...
Non, mais c'est un bon point. On travaille présentement pour fibrer le Québec, on travaille pour les eaux cellulaires, donc on est une équipe au gouvernement qui ne fait que ça. En discussion avec Hydro-Québec, y a-t-il des ouvrages qui peuvent être combinés pour avoir une meilleure technologie? Je pense qu'on est ouvert à tout maintenant. Mme Brochu était très claire hier. Il y a des technologies qui vont devoir être mises en place qu'on ne connaît peut-être pas aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a un effort qui se fait. Puis moi, je regarde au Québec, on parle du storage, on parle des batteries multidirectionnelles. On va arriver là bientôt. Là, nos voitures, on va les électrifier durant la nuit. Puis le matin, ben, la voiture va alimenter les grille-pains.
Mais d'ailleurs, il y a des gens qui s'en sont sauvés comme ça au cours des derniers jours là, avec leur voiture électrique.
Absolument. Donc moi, je pense pense qu'on va voir ce phénomène-là. Maintenant, est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que, avec certitude, qu'on peut se prémunir contre toute panne qui sont causées par des événements météorologiques extrêmes? Je pense que c'est utopique de penser à ça. Mais comment qu'on peut réagir? Comment qu'on peut prévenir un peu plus? Je pense que ça va être important.
Mais est-ce que des événements comme ceux-là, amènent une réflexion supplémentaire de dire, mais là, il faut faire quelque chose, il faut ajouter de l'argent?
La réponse est oui. Puis au même titre qu'on a vu cette semaine, Hydro-Québec qui a annoncé pour adresser les enjeux d'énergie renouvelable, qui veulent augmenter l'efficacité énergétique de 8,9 TWh à 25. C'est majeur comme changement, comme direction. Donc, faut encourager les nouvelles technologies. On voit des jeunes compagnies qui émanent. Moi, je suis allé à la COP 27 en Égypte, puis j'avais avec moi des entreprises québécoises qui faisaient la promotion de produits et services pour le storage, pour le multidirectionnel, comment gérer la distribution d'énergie dans les édifices. Alors, on voit un phénomène de nouvelles technologies qui sont causées par, évidemment, les enjeux de transition énergétique.
Je vais vous amener sur un autre sujet, là, les alumineries. On s'en est parlé à l'Assemblée nationale il y a un peu plus d'une semaine, parce que à chaque fois qu'on commence à négocier des tarifs d'électricité avec les grandes alumineries, ils arrivent toujours avec la fameuse menace de dire « on va s'en aller ». Si vous ne donnez pas des tarifs préférentiels, on prend nos petits, puis on s'en va en Asie, puis on s'en va en Chine, où ça coûte moins cher, etc. Puis là, vous m'avez dit, non, on n'est pas là-dedans, t'es en train de négocier, ça va bien. Ben, le président de Rio Tinto est arrivé exactement avec ça cette semaine en disant que les alumineries en Chine, ça coûte à peu près le tiers à construire que ce qu'on a au Québec. Encore une fois, on sort la fameuse menace de dire, on va s'en aller. Vous n'allez pas succomber à ça?
Non. On a des bonnes négociations présentement avec Rio Tinto. Écoutez, une couple de choses. Premièrement, effectivement, quand on regarde l'histoire du Québec, il y a des gouvernements précédents à nous qui ont accepté une tarification réduite pour les alumineries à juste titre. Parce qu'on parlait d'une situation à l'époque où les prix étaient très, très, très faibles et les alumineries perdaient beaucoup d'argent. Donc, considérant que c'est un secteur important pour le Québec, les gouvernements ont décidé à ce moment-là d'avoir la tarification modulée par rapport au prix de l'aluminium, qui était une bonne décision.
Alors, pour illustrer, là, le tarif L, c'est quoi? Autour de 5 sous le kilowattheure?
Puis il y a eu un moment donné où les alumineries paieraient tarif L moins 30%, par exemple. Alors, je pense que c'était une bonne décision. Aujourd'hui, on est rendu ailleurs. Pourquoi? Parce que le prix de l'aluminium a augmenté. On regarde ce qui se passe dans le monde au niveau géopolitique. On regarde la possibilité que le Québec produise de l'aluminium vert. Alors là, l'environnement du prix a changé. Et de plus en plus, les alumineries, dans leur formule de modulation du prix en fonction du prix de l'aluminium, on se rapproche du L. En fait, cette année, il y a des gens qui ont payé en haut du L. Donc, je pense...
Oui, mais pendant des années, ils ont payé 3,5 cents le kilowattheure, par exemple, quand le prix de l'aluminium était bas.
Regardons le futur. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le cadre dans lequel nous travaillons, l'environnement où il y a un désir de la part des Américains, par exemple, d'avoir de l'aluminium vert ou plus vert que ceux qui vont avoir l'aluminium qui vont acheter ailleurs, fait en sorte que les alumineries sont conscientes. Il faut que le prix de l'aluminium reflète un peu le prix du marché. Et je pense qu'on voit un changement d'attitude de leur part. Puis nous, d'autre part, il faut s'assurer que possiblement les milliards qui seraient investis au Québec, qu'on puisse les avoir parce qu'on aime cette industrie-là. C'est une industrie qui apporte de la richesse pour les Québécois.
Parce que Rio Tinto, et puis c'est Alcoa, je pense, qui développe Élysis. Ils disent, ben nous autres, on a développé de l'énergie verte, puis on va installer des nouvelles cuves, puis tout ça. Puis la menace vient de là en disant, ben on va installer ailleurs si ça fait pas. Là. Mais ce qu'ils disent pas, c'est que c'est nous autres qui payons pour le développement d'Élysis.
Oui, mais en partie.
À peu près à moitié?
Non, on a pris à peu près 20%. Mais quand même, vous avez un bon point. Mais je pense qu'il faut aussi, ce qu'on dit des journaux, qu'on négocie, puisque qu'on fait la réalité, il y a deux choses. Je pense que M. Vella voulait aussi faire un peu un contrepoids à d'autres perspectives, peut-être sur ça. Donc, on va laisser les journaux ou les médias à côté pour l'instant. Mais je pense qu'il faut, comme gouvernement, avoir la rigueur, effectivement, de ne pas donner une électricité qui n'a jamais été notre intention. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation où le Québec est un terroir fertile pour les alumineries. On veut les aider, mais en même temps, il faut garder la population et dire aux gens, ils payent un prix juste. Alors moi, je suis totalement à l'aise avec le fait qu'il faut revoir comment on va faire la tarification de nos alumineries. Mais il faut faire attention, les alumineries, pour le Québec, c'est une grande valeur ajoutée.
Je veux qu'on revienne sur les risques potentiels au réseau amenés par les changements climatiques. On a conclu des importants contrats avec New York, entre autres, là, pour fournir de l'électricité. Puis c'est des contrats importants qui vont rapporter beaucoup, mais ça doit venir avec des garanties, des certitudes qu'on va être capable de livrer l'électricité. Est-ce que quand il survient des crises comme celles qu'on vit, c'est le terme que vous avez utilisé vous-même hier, là, avec une tempête de verglas, est-ce que le téléphone sonne à partir de vos clients aux États-Unis pour dire « Hey, on va-tu le réseau va-tu être fiable? On va-tu être capable? » On veut pas qu'il y ait une tempête de verglas au Québec puis plonger New York dans le noir?
Vraiment, les appels n'ont pas eu lieu encore, les contrats sont pas en place, mais est-ce que les appels vont avoir lieu? Je pense que, encore une fois, quand on regarde ce qui s'est produit, où il y a eu une défaillance au niveau de la distribution, le dernier mille, si on peut dire, avec des enjeux de végétation, je pense que c'est pas les mêmes enjeux qui vont être soucieux à Boston ou à New York, considérant que c'est les lignes de transmission qui partent du Labrador ou qui partent de la baie James. Donc, dans ces lignes-là, je pense que Hydro-Québec a fait un très bon travail, puis aujourd'hui, on n'a pas de raison d'être inquiet par rapport à ça.
Il arrive quoi au cours des prochains jours avec la crise qu'on vit actuellement? Quand on est ministre responsable d'Hydro-Québec, c'est quoi notre priorité?
Écoutez,
à la suite de ces événements.
C'est clair, je m'en vais chez Hydro-Québec tantôt, c'est clair qu'il faut être présent. Bon, Hydro-Québec est en contrôle, je pense, très, il y a un très bon contrôle de la situation. Faut voir comment on peut les aider. La population aussi, évidemment, moi, je félicite les employés, les travailleurs, mais aussi dire aux gens de faire attention. C'est facile d'aller émonder nous-mêmes une branche, couper une branche, voir un fil, tasser le fil. Alors, faut faire attention, je pense, que la population, on a encore pour 24, 48 heures. Mm-hmm. Le travail du gouvernement, c'est de supporter Hydro-Québec, qui fait un très bon travail, selon moi, et d'être près de la population. Je m'en vais à Laval tantôt avec le maire pour voir, observer ce qui se passe. Donc, on est là pour être présent, pour supporter les efforts collectifs.
Êtes-vous sinistré vous-même?
Non, j'ai du chanceux. J'ai rendu Montréal, j'ai mon courant électrique.
Bon, OK. Merci beaucoup, M. Fitzgibbon, d'avoir été avec nous ce matin. Et puis, bonne chance à toutes les équipes d'Hydro-Québec. Je pense que les travailleurs, là, il y a des gens qui travaillent par chiffre de 16 heures par des temps qui courent. Ça ne doit pas être facile.
Merci, M. Lacroix.
Merci, au revoir.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand. Avec Louis Lacroix.
Alors, on va parler maintenant d'assurance. C'est quoi les recours que vous avez? Évidemment, si les branches sont tombées un peu partout, il y a eu aussi dans le secteur de Châteauguay des gens qui ont été inondés. On parle de 200 résidences là, qui ont été touchées par justement la eau, en fait, le fait que les pompes ne fonctionnaient pas, donc les maisons sont endommagées. Louis Cyr est courtier en assurance. Bonjour, Monsieur Cyr.
Oui, bonjour.
Alors, commençons avec les gens là, de Châteauguay, par exemple, là, qui ont connu des gros problèmes d'inondation. Est-ce que ça, les assurances résidentielles couvrent ce genre de sinistre-là?
Ben oui, mais c'est une conséquence, dans le fond, de la panne électrique. Quand on a une panne électrique et que nos pompes ne fonctionnent plus, ça devient finalement ce qu'on appelle un dégât d'eau.
Oui.
Ouais, parce que... le matériel n'a pas fonctionné. Alors, à ce moment-là, c'est l'avenant de dégâts des eaux qui va s'appliquer si on a acheté l'avenant, bien sûr.
Mais les gens sont couverts. C'est-à-dire que, par exemple, je voyais des photos de sous-sols qui étaient des sous-sols finis, là, tu sais, qui deviennent des pièces de la maison et qui sont complètement ravagées par l'eau. Tu sais, quand tu as un pied d'eau, là, tu peux pas. Il faut que tu ouvres les murs, tu recommences au complet, là. Alors, ça veut dire que c'est couvert par les assurances.
Oui, mais comme je vous dis, c'est pas couvert sur le contrat de base avec la limite de base. L'infiltration d'eau, si on veut,
ouais.
Parce que c'est un peu ce qui se passe là, dans ces cas-là, parce que les sols, dans le fond, laissent pénétrer l'eau à l'intérieur de la maison lorsqu'on l'évacue pas. Ben, à ce moment-là, l'infiltration d'eau, elle, devient la couverture de dégâts des eaux. Et le dégât des eaux, c'est avant, on appelait ça le refoulement des égouts.
Oui.
Mais c'est une couverture qui est limitée. Alors, on est obligé d'acheter un montant limite de notre contrat d'assurance. C'est une sous-limitation.
Alors, la limite, généralement, ça peut être quoi? Ça peut ressembler à quoi? J'imagine que ça dépend de ce que vous avez.
Alors, je dirais que les gens prennent des fois dans des sous-sols pas finis 10-15 000. Dans des sous-sols finis, il y a des gens qui vont prendre jusqu'à 50-100 000, là.
OK. Alors, si vous avez votre protection, si vous avez revu votre protection, il y a peut-être des gens qui ont rénové le sous-sol puis qui ont oublié d'aviser l'assureur. Ça se pourrait que vous ne soyez pas couvert au complet.
Effectivement. Ouais. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Parce que la protection des gars des eaux est quand même une des protections très dispendieuses dans le contrat. Alors, les gens, des fois, vont limiter le montant pour limiter la prime. Ouais. Mais c'est vraiment cette limite-là qui s'applique dans un cas comme ça.
OK. Si une branche tombe sur des sur une voiture, par exemple, parce qu'on en a vu beaucoup de ça au cours des derniers jours, là, des grosses branches qui sont tombées sur des voitures, etc., est-ce que l'assurance automobile couvre ce type de sinistre-là?
Oui, l'assurance automobile, aussitôt qu'on a la couverture qu'on appelle B3, donc on va mettre ça dans le langage commun, là, le feu roule, vandalisme, B8,
ouais.
Là.
Ouais.
Bon, ben, cette section-là, c'est la plus petite section de notre contrat d'assurance automobile où on a finalement la plus petite franchise. Et ça couvre également l'objet qui tombe. Alors, la branche est considérée comme un objet qui tombe, tout simplement, que ce soit un arbre ou autre. Là, et tous les dommages à ce moment-là causés sont couverts.
Et c'est la même chose pour la maison?
Et c'est la même chose pour la maison. Oui, la maison n'a pas d'exclusion comme telle pour l'objet qui tombe. Ça fait partie des couvertures de base depuis les tout débuts. Là.
Ouais.
Aussitôt qu'on aurait arrêté de couvrir juste le feu. Donc, dans les années 70 déjà, là, c'était déjà couvert les objets qui tombent.
Okay.
Alors, ce qu'il faut comprendre, donc, c'est une couverture de base que les gens n'ont pas à s'inquiéter. L'ouverture est couverte. Le déblaiement, à ce moment-là, devient couvert. Parce qu'il va falloir enlever l'arbre. Si on a eu de l'infiltration d'eau causée par la pluie qui venait par la suite, c'est encore couvert.
Ouais.
Le repas au restaurant, s'il faut quitter la maison pendant cette période, c'est encore couvert. Fait que c'est vraiment là une couverture de base,
okay.
Là, aussitôt qu'on a ce type de dommage-là.
Bon, et je vais vous poser une dernière question. Si, par exemple, j'ai un gros arbre chez moi, OK,
oui.
Qui brise à cause du verglas, la branche tombe sur la voiture du voisin ou sur la maison du voisin.
Oui.
C'est l'assurance de qui paye?
C'est l'assurance du propriétaire du bien. Alors, ça va être l'assurance de votre voisin qui va payer. On ne pourra pas vous tenir responsable du fait qu'un arbre a brisé à cause d'une condition qui n'est pas de votre faute.
OK, donc
c'est ça le principe dans le fond.
OK, parce que là tout le monde commencerait à se poursuivre parce que les arbres généralement ils arrêtent pas de pousser parce qu'ils arrivent à la limite du terrain là.
Ben, il reste une exception que je vais quand même vous mettre en parenthèse là. Tu sais, si on découvre que votre arbre était très malade, il aurait été coupé il y a 10 ans, puis vous l'avez pas fait et là on embarque dans ce qu'on appelle la négligence. Bon, ça se peut que quelques assureurs poursuivent l'assureur du voisin là dans des conditions semblables là. Mais non. En temps normal, on n'est pas responsable de quelque chose qu'on n'a pas fait. Et le verglas, c'est pas nous qui l'avons fait, donc...
On n'est pas responsable de ça. Merci beaucoup, M. Cyr. Est-ce qu'il est encore là? Il est parti. OK, je pense que la ligne est tombée en même temps que la branche sur la maison du voisin. Voilà. Alors, je pense que ça fait le tour, de toute façon, de ce qui est couvert et pas couvert. Alors, donc, référez-vous, bien sûr. Il va sans dire que vous avez une franchise à payer avec vos assurances. Là. Souvent, pour la maison, ça tourne autour de 1 000 $ que vous allez devoir payer. Mais par la suite, le reste est assuré dans la mesure, justement, ou les limites qu'on a mentionnées avec Monsieur.
L'essentiel de Paul Arcand avec Louis Lacroix.
On va maintenant changer de sujet complètement. On en a beaucoup parlé cette semaine en raison du reportage de Valérie Leboeuf, notre journaliste à la salle des nouvelles ici, qui a sorti cette histoire où il y avait deux écoles de Laval qui ont aménagé des locaux de prière pour des élèves, des musulmans dans ce cas-ci, qui voulaient se rendre prier dans ces locaux. Alors ça a amené justement le ministre Bernard Drainville à prendre une décision cette semaine d'envoyer une directive, voilà, c'est le mot que je cherchais, aux différents centres de services scolaires pour leur dire, vous pouvez pas faire ça, on ne veut plus ça. On connaît pas encore la directive, elle va être rendue publique bientôt, mais en tout cas, le résultat, c'est que ça a relancé tout le débat sur les accommodements raisonnables. Certains pensent qu'il y a eu une espèce de mouvement concerté de différents groupes de pression pour relancer ce débat et mettre à l'épreuve notamment la loi 21, la loi sur la laïcité de l'État. Hier, en conférence de presse, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a raconté qu'il y avait des députés de l'Assemblée nationale qui ont reçu des appels de gens qui n'étaient pas contents de la position du Parti québécois, et c'était des appels à la limite violents. Ben, l'un des députés qui a reçu ces appels s'appelle Pascal Bérubé, vous le connaissez bien, c'est le député de Matane-Matapédia, porte-parole du Parti québécois en matière d'éducation et de laïcité. Bonjour, M. Bérubé.
Bonjour, M. Lacroix.
Alors, racontez-nous, d'abord, qu'est-ce que c'est cet appel-là dont M. Saint-Pierre Plamondon, hier, voulait pas donner la teneur, là? Racontez-nous ce qui s'est passé. C'est arrivé quand?
Bon, alors, mercredi, en fin d'après-midi, je reçois un certain nombre de communications, des courriels, des appels à mon téléphone de l'Assemblée nationale. Et un de ces appels me questionne avec beaucoup d'insistance sur notre position, sur la loi 21, qu'est-ce que vous reprochez? Puis plus je me rends compte que la personne veut essayer soit de m'enregistrer, soit de me piéger, je dis, écoutez, tout est public. J'ai fait 2 points de presse, j'étais là cette semaine. Mm-hmm. Et voici la situation. Et je dis, ben, merci beaucoup. Et puis, écrivez-moi par courriel, je vous envoie tous les liens. Et on m'a gratifié à la fin d'une façon très sonore d'un Allah est grand en arabe. Alors, je l'ai pas vu comme une menace, mais je l'ai vu comme étant un message assez clair que ça faisait pas l'affaire de certaines personnes et qu'on allait nous le faire entendre. J'ai reçu des courriels aussi. Je veux rassurer tout le monde, il n'y a pas de menaces. J'en ai déjà reçu dans le passé des menaces graves, je les ai dénoncées. Mais dans ce cas-ci, ça montre qu'il y a des gens qui suivent le dossier de près et qui s'inquiètent que des parlementaires comme moi essaient de faire respecter une loi, la loi 21, qui consacre le fait qu'on a le droit des services publics laïques, et que c'est la neutralité religieuse. Mais j'ai l'impression, et c'est partagé avec votre collègue du 98.5, Patrick Lagacé, qu'une augmentation de ces cas, vous avez évoqué 2 écoles avec votre collègue Valérie Leboeuf, il y en a une 3e à Vaudreuil qui est confirmée, j'ai l'information avec moi, il y a un cégep, le cégep Garneau, ouais. Même qu'on m'a contacté hier au cégep Garneau pour me dire, écoutez, M. Bérubé, vous avez parlé de nous, c'est vrai, j'ai tweeté une note que j'ai obtenue, mais M. Bérubé, il n'y a pas juste nous, il y a tous les autres cégeps et l'université de la région de Québec. Alors, je note ça aussi. Et là, ça va prendre des balises, non seulement pour le primaire et le secondaire, mais pour le collégial aussi. Tout ça pour dire que ça crée beaucoup d'intérêt dans certains milieux, ce qui s'est passé cette semaine.
Mais je veux juste revenir sur l'appel, là. Quand vous dites que vous recevez, vous êtes gratifié à la fin d'un Allah est grand en arabe, on a dit Allah Akbar. C'est
exactement. Je connais le terme.
Mais qui sont. C'est un terme qui souvent est associé à des gestes violents.
Bon, je l'ai pas vu comme ça. Je l'ai vu comme étant quelqu'un qui voulait manifester quelque chose. Vous savez, vous faites longtemps que vous me suivez en politique. Là, j'ai la couenne plutôt dure sur ces trucs-là. J'ai vécu toutes sortes de situations en 16 ans. Je l'ai vu comme étant une tension parce que la personne, il y en a quelques-unes, il n'y a pas seulement une, là. C'est très incitant. Ils veulent vraiment confronter la position qu'on a actuellement. La mienne repose essentiellement sur une loi qui est celle du gouvernement du Québec, que la CAQ a emportée, qu'on a soutenue. Mais une fois qu'elle est adoptée, il faut la faire respecter. Puis on a vu qu'il y avait des failles. Par exemple, la prière, techniquement, c'est pas dans la loi 21. Mais la laïcité des institutions, la neutralité des écoles, c'est là. Ouais. Les écoles privées aussi. Il n'y a rien qui empêche des écoles privées d'aménager, je dirais, des lieux de culte, parce qu'on va arrêter de dire des lieux de réflexion, là, c'est des lieux de prière. C'est ça, la réalité. Donc, on voit que c'est limité. Qu'est-ce qui reste? La capacité du ministre d'envoyer des consignes. Et je vous suggère bien humblement que, n'eût été de la pression que j'ai mise cette semaine, de façon constante et documentée, il voulait pas aller là. Et je sens que Bernard Drinville ne veut pas rejouer dans l'enjeu de la laïcité. Ben, c'est pourtant important. Alors, ouais. Heureux qu'il ait dit ce qu'il a dit, mais j'ai pas vu la consigne encore, et vous non plus.
Ouais. On me signale qu'au total, là, ce que notre journaliste Valérie Leboeuf, dans son... est rendu à 6 centres de services scolaires là, qui ont été répertoriés, ayant justement aménagé des locaux de prière. Alors, il semble y avoir une espèce de mouvement. Pourquoi, à votre avis, pour relancer le fameux débat sur les accommodements raisonnables? Parce que il y a deux thèmes là, qui s'affrontent. Oui, il y a la loi sur la laïcité, mais aussi les accommodements raisonnables là, qui reviennent. Et tout le débat était parti avec les accommodements raisonnables. J'ai l'impression qu'on veut nous ramener là.
De toute façon, qu'on teste le système. C'est-à-dire qu'on fait des demandes. Une fois qu'elles sont acceptées, ça devient un droit acquis. Et je sais, parce que j'ai des contacts un peu partout à Montréal, qui m'indiquent qu'il y a beaucoup de parents, d'intervenants, qui surveillaient ce qui se passait à Laval. C'est accepté. Ils se tournent vers leur direction en disant, écoutez, on veut un tel local, nous aussi. Est-ce qu'on peut l'obtenir? Et ensuite, essayer d'enlever ça. Alors, c'est important que le ministre réagisse rapidement. C'est pas pour rien que j'ai mis cette pression-là. Le ministre de lui-même ne serait pas arrivé avec, puis vous l'avez bien senti, avec cette réponse-là. D'ailleurs, ça n'avait pas l'air à lui tenter tant que ça de donner la réponse.
Moi, est-ce qu'il y a une chose que j'ai notée, je ne sais pas si et M. Drainville l'a dit à deux reprises, que la directive qu'il voulait envoyer, on ne l'a pas directement, cette directive-là, on ne l'a pas, c'est-à-dire libellée, là, comme elle va être envoyée au centre de service scolaire, qu'il ne voulait pas de locaux de prière dans les classes.
Ouais,
mais alors, il y a d'autres locaux dans des écoles là, que des classes,
quand
non?
Quand même. Les écoles dans la région là, desservies par le 98.5, il n'y a pas beaucoup d'espace disponible dans les écoles. Je vous le confirme, elles sont surchargées. La première position de M. Drainville, c'était de dire, mais écoutez, si on accueille toutes les religions, puis les gars et les filles, il n'y a pas de problème. Je veux référer à la loi 21 de son parti politique qui dit que l'idée, c'est pas de représenter toutes les religions, c'est d'en représenter aucune dans l'espace public, dans l'école. Je suis obligé d'expliquer la loi au titulaire du ministère de l'Éducation. Je veux bien, là, je suis plutôt volontariste pour ces choses-là, mais c'est quand même important les mots qu'on utilise parce qu'il y a des gens qui les notent. Il y a des gens qui contestent la loi 21 également. Et je me demande si ça va pas dans le sens également d'éventuels recours en disant la liberté de conscience. Il n'y a pas de droit à prier à l'école. Ça n'existe pas. On a aboli les commissions scolaires confessionnelles. On a adopté la loi 21. On a les outils pour dire dans une église, dans une mosquée, dans une synagogue, dans un temple, dans un centre communautaire, à la maison ou intérieurement, c'est les endroits pour pratiquer son culte. À l'école, vous êtes là pour le vivre ensemble, pour étudier, pour fraterniser, mais c'est pas un lieu de prière. Il me semble que c'est l'évidence. Et si quelqu'un conteste, il va falloir m'expliquer en quoi l'école devient l'extension de sa pratique religieuse.
En terminant, M. Bérubé, je veux juste faire une parenthèse parce qu'il y a dans votre comté là la distillerie du Saint-Laurent qui est en difficulté financière, qui fait un des meilleurs gins au Québec, je pense là en particulier. Ah oui, là. Alors c'est chez vous, c'est perçu comment là-bas? Évidemment, ça serait une perte importante, là.
Vous l'avez évoqué tout à l'heure, puis au même moment, des gens de la distillerie m'écrivaient en me disant que la SAQ avait entre les mains un dossier qui permettait à l'ensemble des distilleries de mieux s'en sortir parce que les règles de la SAQ sont très contraignantes. Ils s'attendaient à avoir ça dans le budget, c'est pas arrivé. Distillerie du Saint-Laurent, le hasard a voulu que vous disiez des bons mots tout à l'heure. C'est emblématique dans notre région. C'est un gin qui est primé, c'est une magnifique entreprise à la limite de ma circonscription. Là, ils sont protégés par la loi sur la faillite, on va dire comme ça, c'est assez incroyable compte tenu de l'achalandage. Donc, je veux juste dire, M. Fitzgibbon est avec vous tout à l'heure. Je ne sais pas qui ça dérangerait de modifier les règles de la SAQ quant à la distribution des spiritueux, leur permettre de vendre sur place, d'expédier leurs produits également sans trop de contraintes à l'extérieur. Mais là, on a une des meilleures au Québec, une des plus imposantes, qui a des problèmes financiers importants. Ça dit quelque chose sur l'industrie québécoise. Oui, il y a de l'abondance, mais en même temps, la SAQ semble opposée à l'expansion de ces distilleries-là. Et moi, ça me préoccupe. J'en ai une à Mont-Joli qui s'appelle le gin Mugo de la distillerie de la Métis. Ça m'inquiète et je sais que les Québécois réalisent pas toujours que les gens qui le font, c'est des artisans, mais au bout du compte, il faut que ça rapporte un peu. C'est pas le cas présent.
M. Bérubé, merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Au revoir. On va parler un petit peu on a beaucoup parlé en fait au cours des derniers mois d'intimidation dans le monde du sport, notamment dans le hockey junior avec toutes les initiations, etc. Et il y a quelques semaines de ça, je croise Enrico Ciccone, ancien joueur du Canadien qui est maintenant député à Québec, et on jase à bâton rompu dans les corridors de cette situation-là. Et ce que me disait Enrico Ciccone, ce que lui le choquait beaucoup, c'est que on parle beaucoup bien sûr des initiations de joueurs puis de la façon dont se sont comportés certains joueurs, mais lui ce qu'il me disait, c'est que il y avait des adultes dans ces équipes-là.
Ben oui.
Et il y avait des coachs qui supervisaient ces jeunes-là qu'ils ont souvent laissé faire, puis il y a même des coachs qui ont aussi eu des comportements abusifs et on en a un bel exemple ce matin dans le journal Le Quotidien au Saguenay qui nous parle d'un joueur qui s'appelle Joël Perrault qui a joué sous les ordres d'un entraîneur qui s'appelle Richard Martel qui est maintenant député, lui, du Parti conservateur dans Chicoutimi-le-Fjord. Et c'est quelqu'un qui avait, on le sait, là, Richard Martel était quelqu'un de très flamboyant qui pourrait avoir eu un comportement, intimidateur à l'égard des joueurs. Joël Perrault, cet ancien joueur du Drakkar de Bécomo, mais qui a aussi joué dans la Ligue nationale, je pense, et en Europe également, est avec nous. Bonjour, M. Perrault.
Bonjour, ça va bien?
Ça va très bien, vous-même?
Oui, très bien, merci.
Alors, bon, vous avez un regard assez critique du travail de Richard Martel quand vous avez joué sous ses ordres. Comment il était comme coach?
Ben, un peu comme j'ai dit dans l'article, Richard, c'était un personnage, c'était un showman, c'était quelqu'un qui motivait ses équipes là extrêmement bien. Mais c'est sûr que ça avait ses torts pour des jeunes de 16 à 20 ans. L'accent était vraiment mis sur le côté physique, bagarre et intimidation. Lui avoir ses joueurs et nous forçait, nous demandait de nous être intimidateurs aussi sur la glace envers les autres équipes.
Ah oui, d'avoir un comportement intimidateur.
Ben, c'est comme j'ai dit aussi dans l'article, ça faisait partie un peu de
son plan de match.
Ben oui, c'était entièrement son plan de match. Comme j'ai mentionné, là, je me souviens pas vraiment d'avoir vu des X et des O sur le tableau pour savoir où qu'on se positionnait, mais on savait très bien qui allait se battre contre qui.
Est-ce que à ce point-là, ouais.
Ouais, ben c'était une petite vente aux enchères. Puis nous, on avait beaucoup de joueurs dans ce style-là qui étaient capables de jeter les gants, mais c'est sûr que même si t'es pas ce style de joueur-là, ça amène beaucoup d'animosité puis d'anxiété avant un début de match.
Et vous, est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous étiez des fois sur le... Étiez-vous ce style de joueur-là, physique?
Non, c'est plus l'opposé de ça. Là. C'est plus un joueur offensif. Mais quand tu jouais pour Richard, t'étais pas à l'abri de ça. Tout le monde a dû participer là, un peu à sa façon de faire, directement ou indirectement. Là, souvent, les matchs finissaient souvent un petit peu en carnage, là, que ce soit par une victoire, par quelques buts, puis ou une défaite par quelques buts. Là, c'était bien rare que les matchs se terminaient là. Calmement.
Joël, tu viens de le mentionner, junior, c'est entre 16 et 20 ans. Est-ce qu'un entraîneur comme Richard Martel agissait comme ça seulement avec les jeunes, les 16 de 17 ans, ou il faisait la même chose avec les vétérans de 18, 19, 20 ans?
Non, c'était comme ça avec tout le monde. Moi, je l'ai eu pendant 3 ans, puis à 17 ans, il était extrêmement demandant. Puis à 19 ans, on avait une très bonne équipe, puis il était le même personnage qui était à mes premières années. Puis il y a eu des gars qui se sont battus pendant les 3 ans que j'étais là. Puis il a toujours été de la même façon.
Mais Joël, qu'est-ce qui arrivait à un joueur? Parce que ce que vous racontez là dans l'article, c'est qu'à un moment donné, on identifiait un joueur, on disait, ben tel joueur de l'autre équipe, là, lui, il faut y régler son compte. Fait que là, le joueur sur le banc recevait une tape dans le dos, sautait sa glace, puis il était en mission commandée. Là. C'est à peu près...
La petite anecdote que je racontais là à la journaliste, c'était dans mes premiers matchs là junior majeur. Je pense que c'était mon troisième ou quatrième match. On était à Victoriaville. Victoriaville avait une très bonne équipe également aussi à cette époque-là. Et puis comme souvent, là, le plan de match était d'identifier qui se battait avec qui. Fait que les 5 joueurs qui commençaient le match avaient comme mandat de se battre avec les 5 joueurs de l'autre côté. Puis un joueur de notre équipe avait été identifié que si pendant les 5 batailles qui se déroulaient, qu'il recevait une tape dans le dos, il sautait sur la glace pour débuter, je dirais, une mêlée générale. Donc tous les autres joueurs, on savait que si ce joueur-là sautait sur la glace, on devait sauter également. Heureusement, il n'a pas reçu de tape dans le dos parce que les 5 combats qui se déroulaient sur la glace, j'imagine que Richard avait décidé que c'était correct, mais quand t'as 17 ans, puis tu sors du hockey midget, c'est pas quelque chose que t'accueilles avec un sourire, disons.
Mais qu'est-ce qui serait arrivé à un joueur qui aurait décidé de ne pas faire ce que Richard Martel lui disait?
Ben, honnêtement, probablement qu'il n'aurait pas joué, qu'il aurait été...
cloué sur le banc.
Qu'il aurait été dans les estrades. Je sais pas, tu sais, puis je lisais l'article ce matin, puis il y a d'autres joueurs qui mentionnaient quand t'es à cet âge-là, tu veux jouer au hockey professionnel, donc t'acceptes beaucoup de choses, même si t'es pas d'accord, parce que tu veux pas justement être le joueur qui va être pénalisé là, par les entraîneurs. Ouais. Parce qu'on sait bien que les entraîneurs ont beaucoup de contrôle envers les joueurs juste avec le temps de glace.
Pourtant, dans l'article, c'est écrit et tu mentionnes que si tu allais rencontrer Richard Martel dans son bureau, c'était un tout autre personnage.
Oui, il était très sympathique. Puis Richard, c'est un homme extrêmement intelligent, on le voit aujourd'hui. Il était très, très calme, très pédagogue, très rassurant, je dirais. Mais c'était comme ça à l'époque. Je trouve ça plate qu'on répète toujours la même phrase. C'était ouais. comme ça. Puis c'était pire avant ces coachs-là. Si on remonte dans le temps de Michel Bergeron, je suis convaincu qu'ils ont des joueurs qui ont des histoires assez impressionnantes également. Puis c'était comme ça. Moi, ce que je pense qu'il faut focusser, c'est je suis entraîneur maintenant au niveau M18-3 avec Saint-Eustache, puis je les vois, les coachs juniors, puis c'est plus comme ça. Ça a évolué, puis c'est en grande partie à cause de justement les...
De comportements comme ça, oui.
Les gens dénoncent ça, puis il y a beaucoup d'améliorations, puis je pense qu'il faut continuer comme ça. Puis ça, j'allais dire dans l'article, mon but, c'était aucunement de détruire un homme comme Richard Martel, mais je pense qu'il y a il y a la plateforme, il y a le micro pour vraiment faire avancer les choses.
Et si je comprends bien, t'es maintenant entraîneur au niveau midget triple A. Il y a d'autres, on dit toujours qu'un gars comme Richard Martel, c'était tout un motivateur, mais il y a d'autres façons de motiver les jeunes.
Ben, 100%. Là. Moi, je suis entraîneur, j'utilise en aucun temps ces techniques-là. Mais chacun a nos façons de faire, puis... Mais comme je vous dis, j'ai pas vu de Richard Martel là, dans le niveau M13 depuis 3 ans ou même au champ majeur quand je vois pas des matchs.
Mais on dit souvent, comme tu le mentionnais tout à l'heure, qu'à l'époque, c'était comme ça dans la Ligue. Mais vous avez joué également en Europe, vous avez joué dans la Ligue nationale, mais aussi en Europe. La philosophie est différente, je pense, en Europe. Hein? C'est moins axé sur la violence. À cette époque-là, ben, oui. Je parle. Là.
Oui, certainement. Il y a beaucoup de facteurs. Les patrons sont plus grandes, le jeu est moins physique. Mais j'ai joué dans la Ligue américaine, j'ai joué dans la Ligue nationale avant d'aller en Europe. Puis où on avait des joueurs qui connaissaient leur rôle, je dirais, à l'époque, qui étaient là pour amener de la robustesse, même des bagarres de temps en temps, mais c'était jamais commandé de la part des entraîneurs. Vous allez dire, les joueurs étaient plus vieux, ils connaissaient leur rôle probablement, mais il n'y avait pas le côté intimidation psychologique de la part des entraîneurs. J'ai jamais vu que ça au niveau professionnel.
Joël, on peut-tu dire que c'est parce qu'on dit souvent que la Ligue junior majeure du Québec, c'est une business, faut faire de l'argent. Ces gars-là étaient là pour attirer des foules, puis tous les moyens étaient bons pour attirer des foules, puis remplir la place, puis qu'il y ait un bon show, comme ils disent, du bon hockey, comme dans le bon vieux temps, hein?
C'est 100% vrai. Honnêtement, nous, à Bécomo, on avait des grandes rivalités avec Rimouski. Et puis, quand on jouait contre l'Océanique, c'est sûr que c'était un petit peu stagé de la part des entraîneurs. Je pense que c'était M. Doris Labonté à Rimouski à l'époque. Et puis, j'ai jamais eu la confirmation, mais ouais. Je suis convaincu que Richard parlait à l'entraîneur des autres équipes avant, puis ça faisait un petit show avant de commencer.
Là. Ouais, mais il y en a plus de bagarres, ou à peu près plus maintenant là, dans la Ligue de hockey junior majeur. Non, encore un peu là, mais beaucoup ouais. moins qu'à l'époque là. Puis le show est aussi bon, non?
Ben moi, je pense qu'il est meilleur. Ouais. Ben, honnête, le hockey est beaucoup supérieur qu'il était dans mon temps. Et puis, je suis allé voir justement un match de série de junior cette semaine, Sherbrooke à Boisbriand. Puis les joueurs sont d'un talent incroyable. Ouais. Puis je les vois, moi, au niveau budget, comment ils sont bons. Puis on a une très bonne équipe, nous, puis on n'a pas une équipe robuste, mais pas du tout. Mais c'est axé sur la vitesse, le talent, puis... je suis content de voir ça, honnêtement. Je pense qu'on s'en va vraiment dans la bonne direction. Puis je pense que là, de continuer à parler un petit peu de comment qu'on est supposé évoluer en tant que façon de jouer notre sport, je pense que ça va juste aider.
Ouais. Tant mieux. Les coachs de hockey ont jamais été réputés pour être de grands psychologues, mais il va falloir de plus en plus qu'ils le deviennent, hein?
Ben oui, 100%. Ouais. Si je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que Richard avait un bac en psychologie, par contre.
Ah ouais, c'est ça.
OK.
C'est ça qu'on appelle cordonnier mal chaussé, ouais.
Ouais, on va confirmer, là, par exemple, mais
Non, mais c'est ça. Tu sais, moi, j'étais content de voir l'article ce matin, parce que je pense que ça a été très bien écrit, là. Puis, ils ont très bien repris mes commentaires que j'ai pris, puis mes intentions, là. Richard, il m'a quand même amené du positif aussi en tant qu'être humain d'éthique de travail et tout au niveau
Mais ça démontre. Ça démontre qu'il y avait d'autres mœurs aussi à une certaine époque.
On parle beaucoup des initiations. Ouais. Joël, t'es au niveau Midget AAA. Est-ce que ça existe encore?
Non, ça n'existe pas du tout, les initiations. Puis, je ne sais pas si ça a déjà existé, pour être honnête, au niveau
Midget.
Scolaire, là, dans Midget. Mais là, c'est certain que ça aurait plus sa place. Et puis, non, dans notre cas, là, j'ai jamais été moins vraiment d'intimidation. Il peut y avoir des petites chicanes à l'interne là, de coéquipiers, qui, c'est des choses qui arrivent. Puis c'est bien normal. Là, c'est 20 joueurs de hockey à l'adolescence qui sont ensemble à tous les jours. Mais j'ai jamais vu là, d'intimidation.
Joël Perreault, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est très intéressant.
Merci, Joël.
Ça fait plaisir, les gars.
Au revoir. Joël Perreault est ancien joueur du Drakkar de Bécomo, ancien joueur de la Ligue nationale et également en Europe.